Place publique. Le magazine de la rédaction consacré à l'actualité locale et départementale sur RGB. Le mardi de 19 à 20 heures, à l'exception du premier mardi de chaque mois. Au sommaire, rencontres, débats, reportages et émissions spéciales. Sur RGB, l'information locale et régionale est une priorité. Place publique sur RGB 99.2. Bonsoir, très heureux de vous retrouver en ce mardi sur l'antenne de votre radio locale RGB, sur le 99.2 en effet, mais aussi sur radio-rgb.net. Bienvenue à tous. Ce soir, il sera question si bien des actualités au sens large du terme, actualités nationales, internationales, voire locales, avec un invité pour survoler l'ensemble de ces sujets, Jean-Michel Ruiz, secrétaire départemental du Parti communiste français et pour le département du Val-d'Oise. Bonsoir.
Bonsoir.
Alors, nous sommes servis effectivement en matière d'actualité. Il a fallu renoncer à certaines d'entre elles pour peut-être axer notre émission sur des sujets immédiats. Cependant, comme à l'habitude, il est pour nous question de faire un petit retour en arrière avec en particulier les élections présidentielles et législatives de 2012 qui sont déjà bien éloignées. C'est déjà bien loin, certes, mais quel premier bilan politique et social tirez-vous du retour de la gauche au pouvoir après 4-5 mois maximum de gouvernance? Le changement, est-ce maintenant, comme ça a été un thème de campagne au cours de la présidentielle 2012 du côté du candidat de gauche, François Hollande? Le changement, c'est maintenant avec des points d'exclamation ou c'est des points d'interrogation que vous pourriez mettre à cette formule?
Aujourd'hui, malheureusement, ce qu'on voit, c'est qu'il y a eu beaucoup d'attentes de la part du peuple, une grande satisfaction d'avoir écarté Sarkozy du pouvoir. Pour nous, c'était une priorité. On a participé à la défaite de Sarkozy, à la victoire de Hollande à la présidentielle. On a participé aussi à ce qu'il y ait une majorité de gauche à l'Assemblée nationale. Et aujourd'hui, évidemment, on n'est pas là pour donner des bons ou des mauvais points. On est là pour juger réellement sur pièce, loi après loi. On n'est pas là pour avoir une opposition stérile ou pour soutenir aveuglément un gouvernement. Ce qu'on peut dire, c'est que les premières mesures mises en place ne nous rassurent pas.
Alors, question complémentaire pour être le plus clair possible au cours de notre émission, sans langue de bois, où se trouve le Parti communiste français? Où est passé le PCF? Puisque pendant les campagnes électorales que j'évoquais il y a un instant, vous aviez rejoint le front de gauche aux côtés de Jean-Luc Mélenchon. On connaît le résultat effectivement obtenu par Jean-Luc Mélenchon et la suite qui s'est engagée avec un gouvernement de gauche qui s'est élargi aux écologistes et aux radicaux de gauche, mais aucun communiste au gouvernement.
Oui, mais nous avons souhaité ne pas aller au gouvernement, comme je vous l'ai dit. Nous, on savait que les 60 propositions du candidat Hollande ne régleraient pas les problèmes que rencontrent l'ensemble de nos citoyens. Donc, nous, ce qu'on voulait, c'est qu'il y ait une véritable politique de gauche mise en œuvre. Et aujourd'hui, on a créé donc ce front de gauche, vous l'avez dit, il y a déjà quelques temps maintenant. Il a passé plusieurs étapes, des étapes réussies, avec une concrétisation à l'élection présidentielle avec un score quand même exceptionnel, 4 millions de voix, 11% des voix, c'est quelque chose que peu de monde aurait parié sur ce score quelques temps avant. On avait créé ce front de gauche pour s'écarter d'un dilemme mortifère qui était où la catastrophe avait la droite ou l'échec avait la gauche. Donc aujourd'hui, on est vraiment dans notre rôle, le Parti communiste avec ses partenaires du front de gauche est là pour justement mettre les intérêts des citoyens au centre des préoccupations. C'est-à-dire, s'il y a des lois qui font avancer les choses, il y en a, sur les questions sociétales. Je pense, par exemple, au mariage pour tous, je pense même aux questions questions sur le logement, les propositions de Duflo
sur le logement social
avec une augmentation des pénalités et même rehausser le niveau de nécessaire du logement social. On a un département, vous le savez, où on mène une rude bataille sur ce sujet avec des freins énormes de la part de quelques maires UMP. Donc tout ça, c'est des positionnements que nous allons soutenir. Mais tout le reste, sur les questions de l'emploi, sur les questions des salaires, sur les questions même internationales, on a de fortes inquiétudes.
À gauche, les thèmes de campagne semblent avoir été déjà oubliés pour un certain nombre de commentateurs des actualités, voire même un certain nombre de partenaires de la gauche. Pendant les campagnes électorales de 2012, il y a eu beaucoup de tensions sur des sujets sensibles, rappelons-nous, immigration, religion, sécurité, fraude, assistanat, nationalisme ou patriotisme, démondialisation, le tout ayant laissé, voire délaissé trop souvent des sujets de préoccupation prioritaires des Français, comme le chômage, vous venez d'en dire un mot, et l'emploi, le progrès social, l'éducation, la santé, le logement, le cadre de vie, les transports, l'environnement et l'Europe, sujet qui s'invite aujourd'hui même à l'Assemblée nationale avec le vote sur le traité budgétaire européen. Ces derniers mois, après des couacs à répétition et des baisses de sondages elles-mêmes à répétition concernant nos gouvernances, président de la République, Premier ministre et ministre, ces derniers jours, différents sujets d'actualité en France se partagent entre scandales et menaces du terrorisme. Les affaires de Ripoux à la BAC de Marseille, avec la mise en examen de plusieurs de ses membres, entre flics et voyous, c'est parfois difficile de s'y retrouver, sans pour autant vouloir généraliser ces faits divers à l'ensemble des représentants de la police nationale. Pour le Premier ministre Jean-Marc Ayrault, on ne peut pas exercer l'autorité de l'État sans exemplarité. Ça vaut pour tous les responsables politiques, ça vaut aussi pour tous les agents de l'État. Les actualités, c'est aussi les arrestations et les mises en garde à vue, de plusieurs membres d'un réseau islamiste version française, dois-je le préciser, soupçonnés d'avoir notamment participé à l'attaque à la grenade d'une supérette cachère de Sarcelles, c'était le 19 septembre dernier. Enfin, les prévisions économiques et sociales semblent laisser peu de place à une éclaircie positive pour un avenir proche. Alors, comment appréciez-vous, pourriez-vous qualifier la politique de sécurité conduite par l'actuel gouvernement et plus particulièrement par le ministre de l'Intérieur, Manuel Valls? Le passage de la délinquance au djihad, comment peut-on expliquer ce phénomène qui se développe en France et qui a été fortement révélé ces derniers jours, voire ces dernières semaines?
Écoutez, par rapport à ces sujets qui sont très graves, hein, c'est des sujets très importants que vous venez d'aborder. Je reviendrai après sur le traité européen, mais sur les questions de sécurité, sur les questions de ce qui s'est passé à Sarcelles et à Argenteuil tout récemment, puisqu'il y a eu des tirs à blanc sur la synagogue d'Argenteuil, que nous avons condamné tout de suite d'ailleurs. On fait partie quand même des premiers à avoir condamné et à avoir porté notre solidarité à la communauté juive d'Argenteuil. Je voulais simplement dire que on ne joue pas avec ça. On avait reproché à Sarkozy les effets de manche, sa présence un peu médiatique sur le terrain et à côté peu de résultats. Nous, ce qu'on demande à un gouvernement aujourd'hui, c'est de revenir sur une politique de sécurité qui a été abandonnée, contrairement à ce qu'on croit, par la droite ces dernières années. Il y a eu des votes à l'Assemblée nationale, des suppressions de postes, je crois que c'est plus de 10 000 dans la police et la gendarmerie, 10 000 personnes en moins en 5 ans, ce qui est totalement effarant. On voit que dans notre département, les grands chefs de l'UMP préfèrent la vidéosurveillance à la présence humaine. Hein. Je pense en disant ça, entre autres, à M. Poniatowski, qui est un adepte féru, d'ailleurs, sur la question de la vidéosurveillance, puisqu'il croit que ça règle les problèmes, alors que partout ailleurs, dans des autres pays, on a vu que ça ne réglait pas les problèmes, la vidéosurveillance. Aujourd'hui, on a besoin d'une police de proximité. Cette police qui, au contact des gens, qui n'est pas là que pour la répression, qui est là aussi pour discuter avec les gens. Ça s'est fait à un moment donné en France et ça n'a pas été prolongé. Ça a été arrêté par la droite et ça ne s'est pas prolongé. Il y a besoin d'effectifs, je le dis, de police et de moyens aussi énormes dans la prévention. Je crois qu'il faut aussi donner beaucoup à la prévention et bien sûr aussi lutter contre tout ce qui peut amener l'exclusion, la différence entre les citoyens au nom d'une religion, au nom d'une origine. Je pense à ça, il faut lutter contre le choc de la théorie du choc des civilisations. C'est quand même incroyable qu'on parle de ça, qui cherche à diviser le monde en fonction des appartenances religieuses. On voit à quoi ça mène. Aujourd'hui, on se retrouve dans une situation où on tire sur une synagogue. Moi, je trouve la montée du communautarisme, c'est quelque chose d'inquiétant, mais je crois que j'ai l'impression, malgré tout, j'en suis sûr d'ailleurs, il ne faut pas faire d'amalgame. Cette montée du communautarisme, c'est quand même, pour nous, d'après ce qu'on en voit, et je pense qu'on est bien placé parce qu'on est des gens de terrain, on est régulièrement dans les quartiers populaires, c'est le fait d'une minorité, vraiment d'une minorité qui est montée en épingle. Vous parliez tout à l'heure de réseaux islamistes en France. Attention à ce qu'on dit, parce que pour les gens, quand on parle de réseaux islamistes, c'est tout de suite Ben Laden. Alors qu'aujourd'hui, on le voit, c'est des réseaux très peu organisés, c'est quelques personnes, une poignée, et qui discréditent à la fois, sur lesquels certains s'appuient pour discréditer, par exemple, une religion tout à fait louable, qui est l'islam. On voit les premiers à condamner ces personnes-là sont des musulmans. C'est les premiers à dire ce n'est pas des vrais musulmans. Les vrais musulmans n'utilisent pas ces méthodes-là. Alors attention, ces religions, nous on est laïcs, on est pour la laïcité. Et la laïcité, c'est le respect de toutes les religions et la possibilité de pratiquer toutes les religions dans notre pays, dans la liberté, dans le choix individuel. Je crois que ce qui s'est passé à Argenteuil, ce qui se passe aussi, ce qui peut se passer, parce que les intégrismes, il faut faire attention, ne se limitent pas à l'islam. Des fanatiques religieux, il y en a dans toutes les religions. Pour moi, des gens qui interdisent, qui vont attaquer des maternités, des catholiques intégristes, qui vont attaquer des maternités où on pratique l'IVG, pour moi, ils sont aussi des intégristes. Pour moi, ce qui se passe aujourd'hui dans les territoires occupés par Israël, les territoires palestiniens, ce sont aussi des intégristes. Et je pense que, justement, attention à tout amalgame. Aujourd'hui, en deux mots, il y a un procès vendredi prochain à Pontoise, au tribunal de Pontoise, auquel vont comparaître, entre autres, de nombreux camarades, il y a 7 prévenus, dont plusieurs du Front de Gauche. Le Front de Gauche n'est pas antisémite, loin de là, il n'est anti-aucune religion. Simplement, le Front de Gauche et ses militants qui se sont battus dans une campagne de boycott des produits israéliens demandent simplement que les Palestiniens aient le droit à un État qui a été reconnu par l'ONU et un État qui reviendrait dans les frontières qui ont été validées en 1967 et que cet État puisse vivre en paix en collaboration avec l'État israélien. Et pour avoir fait ça, parce qu'ils se sont battus pour un boycott de produits israéliens, ils sont accusés d'antisémitisme par certaines personnes que je considère aussi comme des intégristes. Il n'y a pas un gramme d'antisémitisme dans cette action. Et d'ailleurs, j'appelle tous les gens qui veulent les soutenir à venir devant le tribunal vendredi à 9h. On sera présent pour soutenir ces personnes, ces camarades qui sont accusés à tort.
Voilà, on sent bien que vous êtes directement affecté, directement concerné effectivement par cette procédure en justice qui aura lieu donc le vendredi 12 octobre à 9h au tribunal de Pontoise, au palais de justice de Pontoise. Affaire à suivre. Alors, quand vous disiez effectivement que ceux qui sont les premières victimes des fanatiques islamistes, au sens où on le dit aujourd'hui, peut-être à tort ou à raison, c'est principalement effectivement ceux qui sont d'origine et de religieux musulmanes, c'est plus de 90% des victimes de ces fanatiques. Donc c'est utile de le rappeler pour éviter tout amalgame, alors qu'effectivement l'essentiel et l'écrasante majorité de ceux qui ont pour religion l'islam, les musulmans, sont les premières victimes de ces fanatiques de par le monde.
Et je voulais insister sur une chose, il ne faut surtout pas dans cette période où certaines tentes de la division marchaient dans ces créneaux. On sait très bien que des partis comme le Front National, Marine Le Pen, s'appuient justement sur ces sujets pour essayer de faire remonter la sauce. Et quand je vois des dirigeants politiques de droite s'engouffrer dans le créneau, je pense à Copé, Jean-François Copé, qui va parler de pain au chocolat volé à la sortie des écoles. Mais on a l'impression qu'on rêve. Quelqu'un qui a l'ambition d'être président de la République, qui d'ailleurs avait, je pense, l'ambition bien avant de l'être. Bon, maintenant, il voit peut-être le chemin ouvert pour lui. Cette personne-là va monter des personnes les unes contre les autres au nom d'une religion en employant des arguments d'une bassesse rare.
Venons-en à l'actualité du jour, le sujet européen, le traité européen sur la stabilité, la coordination et la gouvernance, ainsi faut-il le nommer. Les députés ont voté, se sont prononcés aujourd'hui par un vote solennel sur le projet de loi organique permettant la transposition des dispositions du traité en droit national. Résultat de ce vote qui est intervenu aujourd'hui même, mardi 9 octobre 2012, 20 députés socialistes ou apparentés ont voté contre. On a suivi effectivement ces dernières semaines la campagne lancée, la mobilisation lancée par le Front de Gauche et donc activée également par le Parti communiste français. Pouvez-vous expliquer ce soir sur cette antenne de radio pourquoi votre formation politique se prononce contre ce traité ?
Oui, je vais le faire, mais tout d'abord je voulais commencer par parler du vote d'aujourd'hui, parce que c'est quelque chose, vous venez d'en parler, c'est d'actualité, ça vient d'arriver.
Vote solennel. Hein.
Voilà, j'ai eu l'occasion, juste avant de venir, de regarder les votes à l'Assemblée nationale. Je voulais simplement dire, on avait dit, nous, le Parti communiste, le Front de gauche, que quand on est de gauche, on ne vote pas pour un traité de droite. Je vous expliquerai plus en détail après, mais on avait dit ça clairement. Aujourd'hui, donc, je tiens à féliciter, si l'on peut dire, les députés qui ont tenu leur parole, qui se sont fait élire sur des valeurs de gauche. Il y en a dans le département, puisque 6 députés se sont fait élire au nom de la gauche, et aujourd'hui, 2 ont voté contre ce traité. Il s'agit de Gérard Sebaoun et de Jean-Pierre Blasi. Donc, les 2 ont voté contre ce traité. Les autres soit se sont abstenus, c'est le cas de Jean-Noël Carpentier, soit ont voté pour, c'est le cas de messieurs Pupponi, Doucet et Lefebvre. Moi, j'estime que les personnes qui n'ont pas voté contre aujourd'hui ce traité ont trahi les électeurs de gauche qui ont voté pour eux. En effet, c'est quoi ce traité ? Ce traité, en fait, ce traité, on nous dit, c'est un traité qui est conçu pour contraindre les États à s'enfermer dans des cycles d'austérité. Face aux ravages causés par l'ultralibéralisme, qu'est-ce qu'on vous dit ? Il faut rajouter de l'ultralibéralisme. En fait, mettons du poison dans le poison encore plus. Donc, on voit ce que ça donne. On voit ce que ça donne aujourd'hui. On a quand même des résultats flagrants. L'Europe qu'on nous construit aujourd'hui, on voit ce qu'elle donne. Je vais pas parler de la Grèce, de l'Espagne, du Portugal, de tous ces pays qui aujourd'hui atteignent le fond, où on voit des gens manifester d'ailleurs, et ça c'est rassurant, la réaction de ces peuples, manifester nombreux pour rejeter ce traité. Ce qu'on dit, ce traité, il faut qu'il soit connu des Français. Aujourd'hui, je pense que si on fait le tour, on demande aux gens ce qu'il y a dans ce traité, très peu de gens savent exactement les articles, ce qui est dit dans ce traité.
Bah, surtout, faut-il encore le comprendre, pour ceux qui l'ont eu entre les mains, et des lecteurs très avertis, ils ont dit effectivement que c'est un texte qui est difficile à traduire.
Voilà. Et en effet, alors, donc ce texte-là, déjà, soyons clairs, c'est le traité qu'avait signé M. Sarkozy, c'est le traité, ce qu'on appelait Merkozy, Merkel de Sarkozy. Ce traité-là, François Hollande a rajouté quelques petites vraiment en fin de ligne, là, un tout petit alinéa où on voit à peine que c'est écrit, ça, il a pu le rajouter. Mais c'est ce traité-là. D'ailleurs, les leaders de la droite l'ont dit clairement. J'ai entendu Christian Jacob, le président de l'UMP à l'Assemblée, qui dit qu'on va voter ce traité, c'est nous qui l'avons fait, qui l'avons signé. Même chose pour Guénot. Donc toutes ces personnes-là ont dit clairement, c'est le traité en état. On nous a fait croire au départ que ce traité, en fait, c'était un traité modifié. Non, François, là, quand on nous dit ça, on nous ment. C'est le traité d'avant. Première chose. Seconde chose, quand on a vu ça, d'ailleurs, quand ils ont vu ça, les tenants à gauche, entre guillemets, du traité, ont tout de suite dit, ah non, mais c'est pas ça. Ce traité, en fait, si vous votez contre ce traité, vous mettez François Hollande en difficulté. Donc voilà ce qui nous a été dit, et ce qui a été dit d'ailleurs aux députés socialistes, parce que je pense que beaucoup d'autres auraient voté contre s'ils avaient voté en leur âme et conscience. Mais et ce qu'il faut faire, c'est voter ce traité, et après, on réorientera l'Europe sur des bases saines. Mais c'est se moquer du monde. Ce traité, il fige l'Europe dans... C'est une Europe austéritaire qu'on nous a créée. Aujourd'hui, la France va perdre encore de son indépendance. Quand un pays n'est pas maître de son budget, Quand un pays, aujourd'hui, son budget doit être validé par une commission, eh bien, aujourd'hui, il ne peut pas faire la politique qu'il veut. Quand on veut mettre en place une politique audacieuse, eh bien, on ne peut pas. Quand on dépasse... Alors, on est passé déjà 3% de déficit, c'était quelque chose quasiment impossible à tenir, on passe à 0,5%. C'est-à-dire, aujourd'hui, alors qu'on a besoin de plus de services publics, plus de moyens pour, justement, l'État a besoin de plus de moyens pour combattre les vraies causes, aujourd'hui, de la crise, que sont le chômage, le manque d'emploi, ce qu'on disait tout à l'heure, les faibles salaires, le fait que les jeunes se retrouvent au chômage. Vous prenez la France, où il y a 3 fois plus de jeunes au chômage que d'autres actifs. Je crois qu'il y a tout intérêt aujourd'hui. Le traité, moi, je l'ai là. Je l'ai, et vous savez, on avait demandé un référendum. Si on avait demandé un référendum, c'est ce qu'on avait fait en 2005. C'est parce qu'on est capable, les uns les autres, de comprendre ce traité, s'il est un peu, comme vous le dites avec raison.
Faire un peu de pédagogie.
Voilà, faire de pédagogie. Pour nous, l'éducation populaire, ça compte. Et on pense que les Français ont le droit de se prononcer en connaissance de cause. Je vous garantis, j'ai les articles là, des articles qui mettent l'Europe au service des politiques libérales, la règle d'or qui est mise en place, ce que je vous disais tout à l'heure sur les 0,5%, tout bénef pour les banques. Un petit mot sur ça. Je vais vous lire une ligne du traité. Lorsque le rapport entre dette publique et PIB est supérieur à 60%, la partie contractante le réduit à un rythme moyen d'une vingtième par an. En clair, on dit il faut un remboursement accéléré des banques par les États. Et regardez ce que ça donne pour la France. Ça veut dire 28 milliards d'euros par an à trouver pour rembourser les banques. C'est l'équivalent du financement de la retraite pour un départ à taux plein pour tous à 60 ans. Vous voyez, les choix politiques, on ne peut pas les faire quand on se met des menottes. Même chose aussi, il y a un article qui est sidérant, qui dit c'est la délation. C'est-à-dire, lorsqu'une partie contractante estime qu'une autre partie contractante n'a pas respecté l'article 3, elle peut saisir la commission de justice. Alors maintenant, c'est la délation entre États. On est aujourd'hui dans des pays qui perdent leur souveraineté et qui perdent tous leurs moyens d'action.
Très bien. Alors, juste pour alimenter cette discussion, cet échange, Bruno Leroux, le président du groupe socialiste à l'Assemblée nationale, avait indiqué que ça n'était pas tout à fait le même texte qu'au moment où il avait été présenté par l'UMP, au moment où Nicolas Sarkozy était président de la République, indiquant que c'est un pacte de croissance qui a été adossé au traité européen. Il en a appelé donc les députés socialiste à adopter et à respecter un mode de fonctionnement collectif, autrement dit, et je le cite, une fois la position du groupe arrêtée, la discipline de vote est une règle impérative. À bon entendeur, salut. Marie-Noëlle Lienemann, sénatrice PS de Paris, a annoncé qu'elle ne votera pas ce traité européen. Elle a précisé d'ailleurs que ce texte a été complété, mais n'a pas été modifié. Comme vous l'avez indiqué il y a un instant, du côté de François Hollande et du Premier ministre, il est dit la chose suivante, que la prochaine étape, eh bien, des 18 et 19 octobre, auprès effectivement de la Commission européenne, il sera question de remettre sur la table les propositions faites par la France pour l'union bancaire, la supervision des banques, le rôle de la Banque centrale européenne et la taxe sur les transactions financières. Tout ceci, vous pensez que c'est du bluff ou que la France ne pourra pas imposer au reste de l'Europe ces propositions faites par François Hollande?
Mais écoutez, en tout cas, il commence bien mal. Quand il nous annonce qu'un traité est renégocié, ça nous a été présenté comme ça, vous venez de le dire aussi, les députés socialistes, certains le présentent comme ça. Ce n'est pas vrai. Aujourd'hui, vous pouvez prendre d'ailleurs la droite, pour une fois, le dit clairement. Elle dit clairement, c'est notre traité. Elle en veut la paternité. Hein. Ça, elle insiste là-dessus. Hein. C'est leur traité. Eh bien, aujourd'hui, ce traité qui n'a pas été justement modifié, qui a été voté aujourd'hui donc par de très nombreux députés qui ont tourné le dos pour certains leurs engagements, ce traité-là va justement, au contraire, bloquer les choses, donner à tous ces financiers qui aujourd'hui se sont engouffrés déjà dans la brèche pour saigner des pays entiers. pour saigner, comme je l'ai dit tout à l'heure, à la Grèce ou l'Espagne, c'est flagrant. Ces financiers-là vont s'engouffrer et vous croyez qu'ils vont revenir en arrière hein, lors d'une discussion avec François Hollande ? Non, mais il faut. Je crois que clairement, c'est un véritable mensonge, un mensonge quand même qui est particulièrement important pour l'avenir de la France.
Alors, précision également, parce que on a tendance un peu à l'oublier, mais d'après les spécialistes, ce nouveau traité, de toute façon, quoi qu'il arrive, entrera en vigueur en janvier 2013, après adoption de ce traité par au moins 12 pays. C'est dire que la règle de l'unanimité n'est plus la règle communautaire.
Non. Et là non, mais en plus, bon, vous voyez vous-même, hein, très peu de pays passent par la voie référendaire. Donc, quand c'est les gouvernements qui décident, aujourd'hui, vous voyez l'ensemble des gouvernements qu'il y a en Europe, aucun est un gouvernement progressiste. Ça a failli être le cas en Grèce, ça s'est joué à peu. Mais bon, on a joué de la peur, on a joué de la terreur en disant Syriza, attention, c'est la fin de la Grèce. Eh bien, si Syriza était passé, si un pays prend justement les devants pour dire c'est pas cette Europe que nous voulons, c'est une Europe vraiment dans l'intérêt des peuples, je crois qu'on se retrouvera dans une situation différente. C'est pour ça que nous continuons, nous, Parti communiste, avec le Front de gauche, à nous battre.
On développera encore des sujets liés à l'économie dans quelques minutes dans la suite de cette émission. Juste pour conclure sur ce sujet, sur le traité européen sur la stabilité, la coordination et la gouvernance. Du côté des écologistes, vous avez apprécié le positionnement du parti qui a voté contre, et cela mettant en grande difficulté les deux ministres d'Europe Écologie Les Verts qui se trouvent au gouvernement, avec en particulier Madame Duflot.
Mais écoutez, nous, notre positionnement, c'est sur tous les sujets pareils. Nous, ce qu'on veut, c'est rassembler au maximum sur les valeurs qui nous sont communes. Aujourd'hui, sur ce sujet-là, il est clair que la position d'Europe Écologie, on ne peut que s'en réjouir, la position majoritaire, même si je crois que 3 députés ont voté d'Europe Écologie ont voté pour. Mais autrement, on ne peut que se réjouir de ça. Mais ce qu'on dit aujourd'hui... Est-ce qu'ils vont aller au bout aujourd'hui ? Le budget qui va être mis en place suite à ça va être un budget qui va s'ancrer dans la rigueur, dans l'austérité. Que feront Europe Écologie ? Je sais que le responsable d'Europe Écologie qui a parlé à l'Assemblée nationale a tout de suite dit qu'il voterait le budget avant quoi que ce soit. C'était dans son préambule. Première chose qu'il annonce, c'est qu'il voterait le budget. C'était quand même une petite garantie pour le gouvernement. Je crois que c'était un compromis entre eux, sûrement, entre Cécile Duflot et la direction d'Europe Écologie. Mais on ne peut qu'être content que Europe Écologie ait réagi de cette manière au niveau du parti politique qu'il représente.
En même temps, oui, c'est une position pour le moins ambiguë. Il suffit de se reporter à une toute récente déclaration de Daniel Cohn-Bendit, qui a fait parler de lui sur ce sujet et qui a qualifié la position de ses camarades d'Europe Écologie Les Verts de ridicule. Puisqu'il dit la chose suivante, alors ils vont voter contre le traité et pour la loi organique, alors que c'est l'application du traité. Et après, ils vont voter pour le budget qui est l'application de la loi organique, qui est elle-même l'application du traité. Donc c'est vrai qu'on se dit qu'il y a une position comme ça de principe au départ, mais qu'en réalité, au final, la majorité actuelle, Parti Socialiste et Europe Écologie Les Verts et Radicaux, eh bien, s'ils vont continuer de gouverner sur les bases d'une solidarité gouvernementale.
Voilà, et du compromis. Mais ce que je partage, c'est qu'il faut qu'il y ait une cohérence entre les deux votes. Il faut que Europe Écologie se positionne clairement sur de nombreux sujets, comme ils l'ont fait là, mais qu'ils aillent vraiment au bout de la logique. On ne peut pas dire que c'est un épiphénomène, comme j'ai entendu aussi par un député Europe Écologie. Ce n'est pas un épiphénomène. Voter contre ce budget, c'est un acte, contre ce traité, c'est un acte fort. Et je suis. Il faut maintenant se battre pour. Contre l'Europe libérale qu'on nous construit, mais qu'on se batte ensemble, ça me satisferait pleinement.
Parmi les sujets qui concernent et qui se coïncident aux préoccupations immédiates de l'ensemble des Français, c'est le sujet lié à l'emploi, à la situation sociale. Vous avez certainement vu et commenté déjà les chiffres du chômage qui ont atteint un niveau record. plus 10,6%, c'est le taux de chômage en France à la fin de l'année. C'est une nouvelle dégradation de l'emploi qui est annoncée d'ici la fin de ce second semestre 2012, selon l'INSEE. Avec effectivement sur cette question du chômage et de l'emploi, de nombreuses manifestations, mobilisations, grèves qui sont en cours. Il y avait aujourd'hui une mobilisation du 9 octobre pour l'emploi et l'avenir des industries, de l'industrie française. Quelles sont un peu vos réactions sur ce qui se fait, comment dire, sur la place publique ces dernières semaines en matière effectivement d'annonces quotidiennes, quasi quotidiennes, de plans sociaux et de dégradation sur le front de l'emploi?
Vous l'avez dit, ça c'est un problème qui touche malheureusement de plus en plus de Français. Aujourd'hui, j'ai vu les derniers chiffres qu'on avait vu paraître sur le Val-d'Oise. Pour en revenir au Val-d'Oise, je crois que c'était une augmentation de 7% sur le Val-d'Oise sur l'année. C'est des familles qui souffrent, des familles qui ont du mal à se nourrir, à se loger. C'est des êtres humains qui souffrent avec ce chômage. Alors nous, ce qu'on dit, c'est qu'il faut prendre des mesures urgentes. On voit un MEDEF arrogant, un MEDEF qui, dès la droite battue, quand même, le MEDEF, n'oublions pas, ça a été un des principaux soutiens de Nicolas Sarkozy et de son gouvernement durant tout son mandat. Le MEDEF, à peine l'élection de François Hollande passée, a dit clairement maintenant, c'est la rentabilité qui va être la règle. Hein. Regardez, les plans sociaux, ils sont sortis les uns après les autres. C'est PSA, c'est Fralib, tout ce que nous connaissons, tout ce que nous voyons aux journaux, et pas simplement aux journaux, parce que PSA, ça nous touche directement. Je crois qu'il y a à peu près 400-500 salariés de PSA Aulnay qui habitent le Val d'Oise. Donc ils sont touchés directement par la fermeture annoncée, programmée. Il y a des sous-traitants, de très nombreux sous-traitants dans le Val-d'Oise qui travaillent pour PSA, dont les salariés sont particulièrement inquiets aussi. Ce que j'ai proposé et qu'on va mettre en place, c'est-à-dire on va contacter l'ensemble des organisations syndicales sur le département et des partis de gauche pour demander qu'on crée une cellule de veille et de riposte. Aujourd'hui, on ne peut pas laisser des salariés aujourd'hui s'enfoncer dans ce chômage qui détruit les êtres humains, qui détruit des familles entières. Nous, ce qu'on veut, c'est une autre politique. On veut des mesures immédiates. Quand je vous parlais de mesures immédiates, c'est par exemple un moratoire sur les suppressions d'emplois. Ça, c'est une première chose, mais ça ne règle pas tout. Interdire les licenciements boursiers. Il y a une loi qui a été proposée à l'Assemblée, au Sénat, quand Sarkozy était président. Les socialistes ont voté cette loi avec nous. Le PRG l'a pas voté, ce qui a fait que la loi n'est pas passée au Sénat. Depuis que le Parti socialiste est au gouvernement et à la majorité à l'Assemblée nationale, les députés communistes ont redéposé cette loi sur les licenciements boursiers. Elle n'est toujours pas mise à l'ordre du jour à l'Assemblée nationale. On exige qu'elle soit mise à l'ordre du jour. Quand je parle de licenciements boursiers, ce n'est pas des mots en l'air. Hein. Quand on parlait de PSA il y a deux minutes, 200 millions de versés aux actionnaires, 200 millions, c'est la masse salariale d'Aulnay, par exemple. Ça ne règle pas tout, mais c'est un symbole. Et encore, là, je vous dis PSA, ce n'est pas les seuls, hein, c'est partout. Sanofi qui aujourd'hui annonce 1000 suppressions d'emplois. Pour eux, on supprime 1000 emplois. Il a réalisé l'an dernier 5,7 milliards de bénéfices nets en augmentation. En pleine crise, Sanofi est en augmentation. Et mais qu'est-ce qu'ils font? Ils en ont distribué 44% aux actionnaires. Écoutez, c'est une politique qu'on ne peut pas accepter. Aujourd'hui, il faut savoir ce qu'on met au cœur. Nous, on dit l'humain d'abord. C'est pas que des mots. Aujourd'hui, c'est l'humain qu'on doit prioriser. Alors pour ça, on va nous dire aussi l'emploi, ça ne se règle pas qu'au niveau des grandes entreprises, les PME, voilà. Nous, on dit qu'il faut réorienter le crédit. Le crédit que les banques donnent aujourd'hui, on le voit. Il y a une multinationale qui a voulu racheter une autre multinationale. La banque lui prête à 1%. Demandez à une PME si elle demande un prêt pour créer de l'emploi ou pour acheter de nouvelles machines, si elle va avoir le taux de 1%. Non. Aujourd'hui, les banques privilégient toutes ces entreprises qui font de l'argent quoi, et qui ne font absolument pas de l'emploi. Nous, on dit qu'il faut aujourd'hui que les aides soient intelligentes. Moi, je suis scandalisé quand j'ai entendu, et après, ils reviennent un peu dessus, mais on a un peu entendu ça quand même. On a parlé de revenir aussi sur de faire encore de nouveaux cadeaux. aux entreprises. Hein. C'est ce qui a été un peu dit, ça a été dit, c'est sorti. Après, le gouvernement revient dessus. Mais 40 milliards, on a parlé de 40 milliards de, et qu'on va basculer sur la CSG. Alors ça, c'est incroyable. Hein. C'est-à-dire, on retire une somme que les entreprises doivent régler, qui n'ont jamais créé d'emploi. Ces aides-là n'ont jamais créé le moindre emploi. Et on va demander à ce que ce soit la CSG qui prenne ça en compte. C'est-à-dire, c'est qui la CSG ? C'est les salariés, c'est les chômeurs et c'est les retraités. D'ailleurs, les retraités qui seront dans la rue le 11. Parce que je pense qu'aujourd'hui, nous, c'est une autre façon de concevoir le monde qu'on veut mettre en œuvre. Et on n'est pas des rêveurs.
Difficile d'arrêter notre invité, puisque effectivement, pour ne pas perdre le fil effectivement de son intervention, nous sommes toujours en effet respectueux, mais en même temps, d'accord, il va falloir se trouver des réponses plus courtes et qui seront nécessairement dynamiques également et sans pour autant dénaturer votre propos, je le précise. Cependant, sur ces sujets-là, quand vous voyez l'actuel ministre du redressement productif, Arnaud Montebourg, être sur le front de l'emploi et justement du redressement productif, vous n'avez pas de confiance dans l'action qu'il mène et donc l'action engagée par l'actuel gouvernement ?
Écoutez, moi, je voulais, très rapidement, moi ce n'est pas l'attitude et les gesticulations que je juge, c'est les résultats. Aujourd'hui, la seule chose qu'il a réussi à obtenir, c'est une rencontre tripartite entre l'entreprise, les salariés et le gouvernement. Voilà, c'est tout. Aujourd'hui, je vois ça. Il n'y a aucune garantie qui a été donnée aux salariés de PSA sur les suppressions d'emplois et sur la fermeture de l'usine.
Alors, quand on parle d'emploi en nombre, on pense effectivement à la situation de la sidérurgie en France, l'exploitation minière. On pense inévitablement au site de Florange, où il a été pendant plusieurs mois question d'un possible redémarrage du haut fourneau par ArcelorMittal, pourtant numéro un mondial de l'exploitation sidérurgique. Et là, eh bien, nous avons tous découvert ces dernières semaines, ces derniers jours, qu'il n'en sera pas, puisque ArcelorMittal a annoncé la fermeture purement et simplement du site de Florange. Comment vous accueillez cette nouvelle ? Et est-ce que vous pensez sincèrement, sérieusement, qu'il y a un avenir pour la sidérurgie en France, alors qu'on sait qu'effectivement, sur le plan financier, bien produire de l'acier, ça coûte moins cher dans nombre de pays qui ne sont pas si lointains que cela.
Alors là, par rapport à ça, vous parlez, là, ça revient sur les idées de compétitivité et de coût du travail qui sont mis régulièrement en avant pour là aussi, le MEDEF, c'est une bataille idéologique qu'ils ont menée et qu'ils commencent, si on n'intervient pas, à gagner. Quand on entend le gouvernement, il n'est pas loin de ce discours-là. On a entendu parler de compétitivité, de coût du travail. Là aussi, il y a des idées fausses et c'est faux aussi. Ce qu'on peut dire là-dessus. L'industrie automobile, je reviens après à ArcelorMittal, l'industrie automobile, aujourd'hui, un salarié dans l'automobile, le coût horaire pour un salarié de l'automobile en France est 10 euros moins cher qu'en Allemagne. Et ça n'empêche pas qu'aujourd'hui, l'industrie automobile française est en grande difficulté, alors que l'industrie automobile allemande est toujours bonne, quoi, a des bons résultats. Alors, il y a d'autres choses. Il y a la formation, il y a le financement. On sait que dans certains pays, on met plus d'argent dans la formation, dans la recherche.
Aujourd'hui, dans l'innovation.
Dans la recherche, l'innovation, voilà, c'est ça. Et nous, on demande aussi, parce qu'on sait qu'on ne peut pas un métier, on a un métier, il n'est peut-être pas éternel. On demande à ce qu'il y ait une sécurité d'emploi et de formation. C'est-à-dire qu'un salarié alterne les périodes d'emploi où il travaille et des périodes de formation. C'est comme une sécurité sociale, mais sur l'emploi. Et c'est faisable parce qu'on va nous dire on est en pleine crise, on n'y arrive pas. La sécurité sociale, elle a été créée en 1945, au lendemain de la guerre, donc dans une France complètement dévastée, et on a créé la sécurité sociale. Si on veut travailler à une sécurité d'emploi et de formation pour les salariés, on peut le faire. ArcelorMittal, pour moi, ces entreprises qui suppriment des emplois, alors que, comme vous l'avez dit, c'est les numéros 1, c'est une entreprise qui n'est pas en difficulté.
Qui est florissante, voilà, sur le plan, voilà, mondial. Hein.
Pour moi, c'est les patrons de cette entreprise, quoi, ceux qui gèrent cette entreprise, pour moi, c'est des voyous. Voilà.
En même temps, c'est vrai qu'il y a des secteurs en nombre au niveau de l'emploi en France, des secteurs qui n'ont pas su forcément innover,
Voilà.
qui n'ont pas su se développer, affronter, comme on dit, la concurrence. Mais en même temps, c'est vrai que est-ce qu'il faut maintenir un certain nombre de pans de l'économie à coup de subventions, alors qu'il faudrait peut-être créer, penser de nouvelles formes d'emploi, de nouveaux secteurs d'emploi, les emplois du futur.
Voilà.
On a l'impression qu'on est un peu en panne en France sur le sujet.
Quand je vous disais tout à l'heure qu'on mettait, par exemple, 3 fois moins d'argent que l'Allemagne dans la question de la recherche, justement, c'est aussi les conséquences qu'on a, c'est qu'aujourd'hui, on se retrouve dans des situations catastrophiques pour les salariés parce qu'on ne met pas les moyens où il faut. Tout bêtement, moi je pense à ça, mais avant, on fabriquait, par exemple, des pellicules pour les appareils photo. Aujourd'hui, tous les appareils sont numériques, quasiment, sauf pour ceux qui font des professionnels. Mais autrement, il y a beaucoup de numérique. Évidemment qu'on ne peut pas garder l'emploi comme il est. Il y a besoin de restructurer les choses, de changer les choses. Ça n'engendre pas pour moi le chômage. Quand je vous parlais de formation, quand je vous parlais de renouveler l'emploi, de renouveler les connaissances des gens, je pense que c'est quelque chose d'important.
Depuis le 4 octobre, c'est-à-dire depuis quelques jours, des négociations interprofessionnelles sont en cours entre les partenaires sociaux, 8 organisations, 3 patronales, 5 syndicales, qui planchent en particulier sur le sujet de la sécurisation de l'emploi. Sur ces questions, et dans le cadre de ce climat de négociation, on se dit chacun devant faire quelques efforts de conciliation et surtout quelques efforts pour faire que la négociation avance. Est-ce que du côté des syndicats de salariés, il y a des efforts particuliers à faire pour faire avancer ces négociations, selon vous?
Vous vous doutez bien que je n'aurai absolument aucun conseil. Je ne me permettrai pas de donner des conseils aux syndicats. Je les laisse dans leur rôle. Je pense que pour beaucoup, ils le font très bien. Donc, à partir de là, je ne me permettrai pas de leur donner des conseils. Ce qui est clair, je vous ai parlé tout à l'heure d'une sécurisation de l'emploi à travers la formation continue tout au long de la vie en alternance avec des périodes d'emploi. Pour moi, c'est une proposition qui peut avancer. Je crois que la CGT l'a fait aussi. Il y a des avancées possibles. Moi, je crois qu'il va falloir qu'à un moment donné, quand on a un slogan qui est le changement, c'est maintenant, il faut changer. Donc, il faut changer des logiques. Et quand on change les logiques, vous verrez si ça se fait. Les choses iront beaucoup mieux dans ces domaines-là.
Nous évoquions tout à l'heure la séance tout à fait solennelle sur le traité européen à l'Assemblée nationale. Au cours de la séance de ce jour, il a été aussi décidé d'autres sujets, parmi lesquels un vote définitif sur les emplois d'avenir pour les 16-25 ans, peu ou pas qualifiés. Cela a été donc adopté aujourd'hui par l'Assemblée nationale avec la décision suivante. 150 000 emplois d'avenir vont être créés d'ici 2014, dont 100 000 pour 2013. Est-ce que ça, selon vous, c'est un bon signe pour justement réduire le chômage et de donner peut-être aux jeunes de 16 à 25 ans un peu plus d'espoir dans l'avenir?
Alors, comme je vous le disais tout à l'heure, j'ai pas les chiffres en tête, mais je crois que le chômage des jeunes de moins de 25 ans est autour de 24% en France, hein, comme ça, de tête, alors qu'il est à 6% dans d'autres pays européens. Je crois que c'est nécessaire de s'attaquer au chômage des jeunes. Aujourd'hui, les jeunes, ils ont vécu dans la précarité toute leur vie, précarité scolaire, précarité, ils ont vu leurs parents ramer pour avoir un logement. Ils ont vu leurs parents être au chômage. Il faut donner un avenir radieux aussi à ces jeunes. Pour ça, il faut mettre le paquet. Simplement, je ne sais pas comment ça s'est conclu parce que je n'ai pas vu les débats aujourd'hui. Je sais que nous avions des amendements, le Parti communiste et le Front de gauche, justement, à l'Assemblée par rapport à ces emplois d'avenir. Parce que ces emplois d'avenir, nous on dit l'avenir il ne se limite pas à 3 ans. Hein. Il faut une pérennisation de l'emploi après. Et cette pérennisation de l'emploi, elle n'était absolument pas garantie dans le projet qui était mis en place. Tout comme la formation, on n'avait pas. On demandait à intégrer les périodes de formation dans la période de temps de travail, ce qui me semble assez logique. Pour un salarié, c'est ce qui existe. Pour ces jeunes-là, ce n'était pas le cas à ce moment-là. Alors je ne sais pas comment s'est déroulé le vote, parce que je ne sais pas si ces amendements ont été adoptés. Ce qui est sûr, c'est qu'il faut. Il faut faire un effort en direction de la jeunesse sur les questions de l'emploi, bien entendu, mais il faut aussi que cet effort, ce ne soit pas du travail au rabais, mais que ce soit des possibilités après d'avoir un emploi pérenne, d'avoir la possibilité de s'épanouir.
L'avenir, c'est aujourd'hui et demain, avec pareil, là un chiffre qui est pour le moins un peu alarmiste, et je nuance, mais parce que je n'ai pas un tempérament alarmiste, mais que voulez-vous, quand on voit semaine après semaine ce chiffre se réduire, à l'approche du 31 décembre, on se dit qu'il y a de quoi être un peu inquiet, puisque selon l'INSEE, la croissance en France pour 2012 est annoncée à l'heure où je parle à 0,2. Seul l'élan de 2011 permettra d'éviter une croissance nulle pour 2012, mais pour 2013, rien n'est acquis. Alors, est-ce que la France est rentrée dans à l'heure d'une austérité, voire davantage, selon vous ?
Ah mais ce que je vous ai dit depuis le début, c'est que pour moi, aujourd'hui a été voté un traité qui veut mettre l'austérité sur toute l'Europe, donc bien sûr sur la France, que certaines mesures prises aujourd'hui en général, sont austéritaires. Quand on ne tape pas sur les profits financiers, aujourd'hui, pour moi, on mène une politique austéritaire. Pour moi, ce que vous dites, c'est la conséquence, ce n'est pas la cause. Donc obligatoirement, on se retrouve aujourd'hui avec une croissance très faible, 0,2 vous avez dit, hein, c'est 0,2.
0,2.
Ouais, une croissance très faible, mais je pense qu'on n'actionne pas les bons leviers, si vous voulez, voilà, pour que justement relancer la croissance. Quand on voit que sur les salaires, par exemple, on n'a pas mis le SMIC, c'était même pas un coup de pouce, hein, c'était, je ne sais pas comment appeler ça, donc je dirais un coup de pouce pour rester nuancé. Donc ce coup de pouce au SMIC, chaque fois qu'il y a des batailles aujourd'hui sur les salaires, sont des vrais combats. J'ai assisté à la bataille des salariés d'Argenteuil, d'une usine de ramassage d'ordures ménagères, qui se battaient pour des conditions de travail décentes, mais aussi pour les salaires. Pour arracher aujourd'hui dans une entreprise 100 euros dans une bataille, ça devient quelque chose d'horrible. Et comment voulez-vous qu'après, on s'étonne que ces personnes-là ne changent pas régulièrement de voiture, ne consomment pas ? Parce qu'on parle des problèmes de l'emploi. Il y a beaucoup d'emplois aujourd'hui qui dépendent de la proximité, et je pense que si les gens avaient les moyens, aujourd'hui, ils pourraient relancer pas mal de choses. L'économie peut passer aussi par la relance.
Alors, si je vous entends bien, si je vous comprends bien, on a en effet l'impression, à vous entendre, que ce François Hollande, le président de la République élu, a renoncé à plusieurs thèmes de sa campagne électorale. On repense à la proposition du super impôt à 75% pour les super riches. Il a été dit que l'actuel gouvernement a renoncé à aligner la fiscalité du patrimoine sur celle du travail pour certains détenteurs de parts de société. L'affaire toute récente des pigeons, ou comment le gouvernement se fait pigeonner, pour citer un titre paru dans la presse. On parle d'une possible reculade de Bercy sur la tranche à 20% de la taxe sur les salaires de plus de 150 000 euros qui pourtant aurait pu rapporter 470 millions d'euros aux finances publiques, un dispositif qui aurait touché essentiellement le secteur financier et bancaire. Est-ce à dire que même sous un gouvernement de gauche, les lobbies gouvernent notre pays ?
Ce que vous venez de dire, c'est un peu ça, non ? Si je comprends bien, mais je partage avec vous cette idée, ou avec ce que vous avez lu.
C'est une interrogation.
C'est une interrogation. Ce que vous avez cité.
Question.
Non, par rapport à ce que vous avez cité, le titre d'un journal que vous avez cité. Oui, le gouvernement s'est fait pigeonner dans cette histoire-là. Oui, aujourd'hui, on voit que quand le MEDEF agite, quelques groupuscules dans le MEDEF agitent un peu les bras, eh bien, on voit des reculades de la part du gouvernement. Parce qu'aujourd'hui, avoir de l'argent dans un pays, ça ne passe pas par une réduction des dépenses uniquement, c'est aussi les recettes. Hein. Vous le disiez tout à l'heure, on a senti que François Hollande avait parlé des 75% parce que nous, dans notre campagne, le Front de Gauche, on disait au-dessus de 360 000 euros, on prend tout. François Hollande a vu que cette idée passait chez les gens, que les gens en avaient marre des écarts qu'il y a aujourd'hui dans notre pays. Il a parlé des 75%. Tellement c'est édulcoré aujourd'hui, je crois qu'ils sont quelques milliers à être concernés, même un millier et quelques. Donc vous voyez, je crois qu'il ne faut pas reculer face au lobby. Bien sûr qu'il y aura la pression de la finance, bien sûr qu'il y aura la pression du MEDEF, bien sûr qu'il y aura la pression de tous ces gens qui ne veulent de l'ultralibéralisme. Alors quand on gouverne et qu'on veut mener une politique de gauche, on résiste à ces gens-là, on les combat.
Alors, on entend beaucoup sur le sujet parler des exilés fiscaux, ceux qui sont déjà un certain nombre et d'autres qui préparent leurs valises. J'exagère à peine. Sur le sujet, si le gouvernement ne réduit pas la voilure, ne réduit pas les dépenses, s'il ne trouve pas de nouvelles recettes, comment réduire la dette qui, elle, se déchaîne, pour le moins qu'on puisse dire. Il serait question, l'exécutif réfléchit à une baisse des cotisations patronales qui pourraient être financées par plusieurs impôts, comme vous le disiez tout à l'heure, la CSG, mais aussi la TVA, mais aussi la fiscalité écologique, par exemple, pour les poids lourds. Et là, c'est une manière de généraliser effectivement l'impôt, y compris auprès des retraités, en tout cas pour ceux qui payent un impôt sur le revenu. Comment vous appréciez ces perspectives ?
Vous vous doutez que je ne vais pas en dire du bien. Donc automatiquement, c'est
on
vrai.
Ne sait jamais. On ne sait jamais.
Non, vous savez, nous, on ne fait pas partie de ceux qui retournent régulièrement en Kazakh. Donc voilà, on est là-dessus. Par rapport à ce que vous venez là aussi de dire, que Bernard Arnault parte en Suisse ou en Belgique, voilà. Bon, que un tel, parce qu'il gagne des milliards, décide de quitter le pays. Moi, ces personnes-là, il faut les poursuivre. Moi, pour moi, ce sont des gens qui partent, qui ont fait leur argent en France. Il faut aussi les poursuivre dans ces pays-là, aller chercher leur argent. Quant aux gens qui ont des entreprises en France, les entreprises, s'ils disent on va délocaliser, parce que ça aussi, c'est le chantage pour certains, on va les construire. Mais moi, je pense qu'il faut impérativement avoir la possibilité de reprendre les choses. Et pour ça, il faut un pôle public financier. Alors, ça passe soit par le regroupement des banques aujourd'hui, comme la banque postale, les banques mutuelles, mais pourquoi pas, comme l'a dit Marie-Georges Buffet dans une interview, par des nationalisations de banques à nouveau. Je crois qu'il y a un intérêt aujourd'hui à ne pas dépendre du chantage. Vous le disiez tout à l'heure, vous parliez de lobby, mais c'est des lobbies. C'est pas du chantage quand on nous prévient, moi je vais partir en Belgique, c'est quoi ? C'est du chantage. Au bout d'un moment, mais qu'il parte en Belgique, il faut le poursuivre pour lui faire payer les impôts qu'il doit.
Venons-en quelques courtes minutes sur des actualités internationales qui sont nombreuses, donc j'en sélectionne trois. La Syrie, poursuite de la folie meurtrière du régime de Bachar al-Assad. Comment vous appréciez cette information qui fait chaque jour plus de victimes et dans presque la quasi-indifférence internationale aujourd'hui?
C'est vrai, c'est vraiment dramatique, quoi. Le peuple syrien ne mérite vraiment pas ça. Vraiment.
La solution, c'est quoi ?
Alors, surtout pas. Alors, l'erreur qu'on a pu faire dans d'autres pays, pour moi, malgré tout, c'est l'intervention armée et militaire extérieure. Je crois qu'aujourd'hui, il y a aujourd'hui une résistance en Syrie. Pour moi, il faut la reconnaître, l'aider. Alors, l'aider, ce n'est pas envoyer des militaires, mais l'aider comme on peut. Et sanctionner aussi le régime syrien, l'attaquer au portefeuille, quoi, là aussi. Hein.
Sur le continent africain, autre zone de conflit, le nord du Mali, placé sous un régime de la charia, une véritable sauvagerie d'un régime imposé depuis plus de 6 mois par des rebelles islamistes. Châtiments corporels, viols et exactions sont le lot quotidien de ceux et celles qui vivent dans cette zone. On parle d'un possible engagement d'une force internationale de 30 000 hommes qui pourrait intervenir prochainement au Nord-Mali. Et j'ai cru voir aujourd'hui que François Hollande, président de la République, était favorable à une intervention au plus vite de cette force internationale.
Alors, il est évident, on a tous vu des images, on a tous vu des reportages sur ce qui se passe là-bas. La charia, de toute manière, tous les régimes, quels qu'ils soient, je vous l'ai dit tout à l'heure, on a parlé de l'intégrisme, tout ce qui, pour moi, de toute manière, une religion ne peut pas gouverner. Hein. Pour moi, je suis laïque, ce n'est pas la religion de gouverner. De là, envoyer, moi, je pense que c'est aussi là aussi aux pays africains à intervenir par eux-mêmes. Je pense qu'on n'est plus dans une période coloniale où c'est aux pays européens à venir régler les problèmes des Africains un peu en grand frère. Moi, je ne supporte le côté colonialiste, ça me choque un peu.
Troisième zone qui correspond à un événement qui s'est passé le week-end dernier, réélection d'Hugo Chavez au Venezuela avec 54,6% des suffrages. Son opposant Henrique Capriles a obtenu 44,7%. J'imagine que c'est une bonne nouvelle.
Oui, je suis très satisfait de la victoire de Chavez et dans les conditions dans lesquelles elle s'est faite. Chavez n'a jamais eu autant de voix lors d'une élection. 80% de votants, une élection sur laquelle les médias internationaux n'ont rien eu à redire sur le scrutin. Le battu, d'ailleurs, reconnaît sa défaite. Mais je veux simplement dire que c'est un grand espoir pour moi, pour les peuples d'Amérique latine qui se battent eux aussi contre la mainmise des États-Unis qu'ils ont subi trop longtemps. D'avoir quelqu'un comme Chavez, c'est un espoir pour le peuple vénézuélien. Dire simplement aussi que quand je vois qu'une France 2 est obligée de faire des excuses quasiment et de montrer un reportage en disant qu'ils se sont trompés quand ils ont présenté le Venezuela de Chavez, ils avaient annoncé plus de 80% de pauvres alors que Chavez l'a fait baisser déjà de moitié et c'est autour de 26%. Je trouve que quand les médias français se sont énervés contre Chavez en défendant un candidat qui était quand même un candidat de droite, un candidat libéral et non pas centre-gauche comme on nous l'a présenté, eh bien écoutez, je suis très satisfait. Je félicite Chavez pour son succès.
Alors, cependant, ce n'est pas pour vous agacer, mais je relève au passage quand même, dans les informations les moins positives du Venezuela d'aujourd'hui, pays qui est classé parmi les plus violents de la planète, deux fois plus d'homicides qu'en Colombie, autre pays qui est emblématique sur le sujet. Pire, à Caracas, c'est trois fois plus qu'en Colombie, faisant de Caracas l'une des villes les plus dangereuses du monde. Sur le sujet, peut mieux faire.
Peut mieux faire. D'ailleurs, il a dit qu'il sera meilleur président sur ce mandat-là. On attend.
Finissons sur une question un peu plus personnelle. Être communiste aujourd'hui sous un gouvernement de gauche, est-ce que vous vivez bien la chose? Est-ce que il est facile d'exister? Est-ce que l'espace politique existe réellement quand vous êtes au sein du front de gauche? Car c'est vrai que l'image qui ressort, on va dire médiatiquement et nationalement, c'est Jean-Luc Mélenchon plus que Pierre Laurent, votre secrétaire national du PCF.
Écoutez, le Parti communiste se porte très bien, réellement. Je ne fais pas de la langue de bois, je n'ai pas l'habitude d'en faire. Quand j'ai eu à critiquer certaines positions, je l'ai fait. Aujourd'hui, le Parti communiste se trouve très à l'aise, très bien dans le front de gauche. Il faut savoir que, par exemple, lors de la fête de l'humanité, des dizaines de personnes ont rejoint le Parti communiste, des Valdoisiens, qu'aujourd'hui, on se retrouve avec 30% de plus d'adhérents que l'année dernière, d'adhésion que l'année dernière, ce qui prouve que le front de gauche fait aussi reconnaître le Parti communiste comme une des forces du front de gauche, une des forces motrices du front de gauche. Jean-Luc Mélenchon est un personnage important, Pierre Laurent aussi, et tous les militants qui militent dans le front de gauche trouvent leur place dans le front de gauche en gardant leur identité, c'est-à-dire ils sont membres du Parti communiste, du PG, et aussi beaucoup d'autres partis, mais aussi des citoyens non encartés à qui il faut faire une réelle place et qu'ils trouvent réellement leur place dans ce front de gauche.
Merci Jean-Michel Ruiz d'avoir répondu à notre invitation, d'avoir répondu à l'ensemble des questions qui vous ont été posées au cours de cette émission. Je rappelle pour nos auditeurs que vous êtes le secrétaire départemental du PCF, Parti communiste français du Val d'Oise. Cette émission sera rediffusée sur cette antenne de RGB, sur le 99.2 FM ainsi que sur internet à radio-rgb.net demain, mercredi, de 12 à 13 heures. Je vous souhaite une très belle soirée à l'écoute des programmes de RGB. Merci encore.
Merci à vous. Merci.
Et on se retrouve la semaine prochaine avec un autre et nouvel invité pour commenter les actualités du moment. Bonsoir à tous. Place publique. Le magazine de la rédaction consacré à l'actualité locale et départementale sur RGB.